Lettre 2. J'ai bu l'eau d'oubli. Le passé s'efface de ma mémoire et l'univers s'ouvre devant moi. Voilà ce que je me disais en quittant ma patrie, dont j'avais à rougir, et à laquelle je ne devais que le mépris et la haine, puisque, heureux et digne d'honneur par moi-même, je ne tenais d'elle et de ses vils habitants que les maux dont j'étais la proie et l'opprobre où j'étais plongé. En rompant les nœuds qui m'attachaient à mon pays, je l'étendais sur toute la terre, et j'en devenais d'autant plus homme en cessant d'être citoyen. J'ai remarqué dans mes longs voyages qu'il n'y a que l'éloignement du terme qui rende le trajet difficile. Il ne l'est jamais d'aller à une journée du lieu où l'on est. Et pourquoi vouloir faire plus si de journée en journée on peut aller au bout du monde? Mais en comparant les extrêmes, on s'effarouche de l'intervalle. Il semble qu'on doive le franchir tout d'un saut, au lieu qu'en le prenant, par partie, on ne fait que des promenades et l'on arrive. Les voyageurs, s'environnant toujours de leurs usages, de leurs habitudes, de leurs préjugés, de tous leurs besoins factices, ont, pour ainsi dire, une atmosphère qui les sépare des lieux où ils sont, comme d'autant d'autres mondes, différents du leur. Un Français voudrait porter avec lui toute la France. Sitôt que quelque chose de ce qu'il avait lui manque, il compte pour rien les équivalents et se croit perdu. Toujours comparant ce qu'il trouve à ce qu'il a quitté, il croit être mal quand il n'est pas de la même manière et ne saurait dormir aux Indes si son lit n'est fait tout comme à Paris. Pour moi, je suivais la direction contraire à l'objet que j'avais à fuir, comme autrefois j'avais suivi l'opposé de l'ombre dans la forêt de Montmorency. La vitesse que je ne mettais pas à mes courses se compensait par la ferme résolution de ne point rétrograder. Deux jours de marche avaient déjà fermé derrière moi la barrière en me laissant le temps de réfléchir durant mon retour, si j'eusse été tenté d'y songer. Je respirais en m'éloignant et je marchais plus à mon aise à mesure que j'échappais au danger. Borné, pour tout autre projet, à celui que j'exécutais, je suivais la même aire de vent pour toute règle. Je marchais tantôt vite et tantôt lentement, selon ma commodité, ma santé, mon humeur, mes forces. Pourvu, non avec moi, mais en moi, de plus de ressources que je n'en avais besoin pour vivre, je n'étais embarrassé ni de ma voiture ni de ma subsistance. Je ne craignais point les voleurs, ma bourse et mon passeport étaient dans mes bras, mon vêtement formait toute ma garde-robe. Il était commode et bon pour un ouvrier. Je le renouvelais sans peine, à mesure qu'il s'usait. Comme je ne marchais ni avec l'appareil ni avec l'inquiétude d'un voyageur, je n'excitais l'attention de personne, je passais partout pour un homme du pays. Il était rare qu'on m'arrêtât sur des frontières, et quand cela m'arrivait, peu m'importait. Je restais là, sans impatience. J'y travaillais tout comme ailleurs. J'y aurais sans peine passé ma vie si l'on ne m'y eût toujours retenu, et mon peu d'empressement d'aller plus loin m'ouvrait enfin tous les passages. L'air affairé et soucieux est toujours suspect. Mais un homme tranquille inspire de la confiance. Tout le monde me laissait libre, en voyant qu'on pouvait disposer de moi sans me fâcher. Quand je ne trouvais pas à travailler de mon métier, ce qui était rare, j'en faisais d'autres. Vous m'aviez fait acquérir l'instrument universel. Tantôt paysan, tantôt artisan, tantôt artiste, quelquefois même homme à talent, j'avais partout quelques connaissances de mise, et je me rendais maître de leur usage par mon peu d'empressement à les montrer. Un des fruits de mon éducation était d'être pris au mot sur ce que je me donnais pour être, et rien de plus. Parce que j'étais simple en toutes choses, et qu'en remplissant un poste, je n'en briguais pas un autre. Ainsi j'étais toujours à ma place, et l'on m'y laissait toujours. Si je tombais malade, accident bien rare à un homme de mon tempérament, qui ne fait excès, ni d'aliments, ni de soucis, ni de travail, ni de repos, je restais quoi, sans me tourmenter de guérir, ni m'effrayer de mourir. L'animal malade jeûne, reste en place, et guérit ou meurt. Je faisais de même, et je m'en trouvais bien. Si je me fusse inquiété de mon état, si j'eusse importuné les gens de mes craintes et de mes plaintes, ils se seraient ennuyés de moi, j'eusse inspiré moins d'intérêt et d'empressement que n'en donnait ma patience. Voyant que je n'inquiétais personne, que je ne me lamentais point, on me prévenait par des soins qu'on m'eût refusés peut-être, si je les eusse implorés. J'ai cent fois observé que plus on veut exiger des autres, plus on les dispose au refus. Ils aiment agir librement, et quand ils font tant que d'être bons, ils veulent en avoir tout le mérite. Demander un bienfait, c'est y acquérir une espèce de droit, l'accorder est presque un devoir, et l'amour-propre aime mieux faire un don gratuit que payer une dette. Dans ces pèlerinages, qu'on eût blâmé dans le monde comme la vie d'un vagabond, parce que je ne les faisais pas avec le faste d'un voyageur opulent, si quelquefois je me demandais « Que fais-je ? Où vais-je ? Quel est mon but ?» je me répondais « Qu'ai-je fait en naissant que de commencer un voyage qui ne doit finir qu'à ma mort ? Je fais ma tâche, je reste à ma place, j'use avec innocence et simplicité cette courte vie. Je fais toujours un grand bien par le mal que je ne fais pas parmi mes semblables. Je pourvois à mes besoins en pourvoyant aux leurs. Je les sers sans jamais leur nuire. Je leur donne l'exemple d'être heureux et bon sans soin et sans peine. J'ai répudié mon patrimoine et je vis. Je ne fais rien d'injuste et je vis. Je ne demande point l'aumône et je vis. Je suis donc utile aux autres en proportion de ma subsistance, car les hommes ne donnent rien pour rien. Comme je n'entreprends pas l'histoire de mes voyages, je passe tout ce qui n'est qu'événement. J'arrive à Marseille. Pour suivre toujours la même direction, je m'embarque pour Naples. Il s'agit de payer mon passage. Vous y aviez pourvu en me faisant apprendre la manœuvre. Elle n'est pas plus difficile sur la Méditerranée que sur l'océan. Quelques mots changés en font toute la différence. Je me fais matelot. Le capitaine du bâtiment, espèce de patron renforcé, était un renégat qui s'était rapatrié. Il avait été pris depuis lors par les corsaires et disait s'être échappé de leurs mains sans avoir été reconnu. Des marchands napolitains lui avaient confié un autre vaisseau et il faisait sa seconde course depuis ce rétablissement. Il contait sa vie à qui voulait l'entendre et savait si bien se faire valoir qu'en amusant, il donnait de la confiance. Ses goûts étaient aussi bizarres que ses aventures. Il ne songeait qu'à divertir son équipage. Il avait sur son bord deux méchants pierriers qu'il tiraillait tout le jour. Toute la nuit, il tirait des fusées. On n'a jamais vu patron de navire aussi gai. Pour moi, je m'amusais à m'exercer dans la marine, et quand je n'étais pas de quart, je n'en demeurais pas moins à la manœuvre ou au gouvernail. L'attention me tenait lieu d'expérience, et je ne tardais pas à juger que nous dérivions beaucoup à l'ouest. Le compas était pourtant au rhum convenable, mais le cours du soleil et des étoiles me semblait contrarier si fort sa direction qu'il fallait, selon moi, que l'aiguille déclinât prodigieusement. Je le dis au capitaine. Il battit la campagne en se moquant de moi, et comme la mer devint haute et le temps nébuleux, il ne me fut pas possible de vérifier mes observations. Nous eûmes un vent forcé qui nous jeta en pleine mer. Il dura deux jours. Le troisième, nous aperçûmes la terre à notre gauche. Je demandai au patron ce que c'était. Il me dit « Terre de l'Église ». Un matelot soutint que c'était la côte de Sardaigne. Il fut hué et paya de cette façon sa bienvenue, car quoique vieux matelot, il était nouvellement sur ce bord ainsi que moi. Il ne m'importait guère où que nous fussions, mais ce qu'avait dit cet homme, ayant ranimé ma curiosité, je me mis à fureter autour de l'habitacle pour voir si quelque fer, mis là par mégarde, ne faisait point décliner l'aiguille. Quelle fut ma surprise de trouver un gros aimant caché dans un coin. En l'ôtant de sa place, je vis l'aiguille en mouvement reprendre sa direction. Dans le même instant, quelqu'un cria « Voile !» Le patron regarda avec sa lunette et dit que c'était un petit bâtiment français. Comme il avait le cap sur nous et que nous ne l'évitions pas, il ne tarda pas d'être à pleine vue, et chacun vit alors que c'était une voile barbaresque. trois marchands napolitains que nous avions à bord avec tous leurs biens poussèrent des cris jusqu'au ciel. L'énigme alors me devint claire. Je m'approchai du patron et lui dis à l'oreille.
« Patron, si nous sommes pris, tu es mort, compte là-dessus. »
J'avais paru si peu ému, et je lui tins ce discours d'un ton si posé, qu'il ne s'en alarma guère, et feignit même de ne l'avoir pas entendu. Il donna quelques ordres pour la défense, mais il ne se trouva pas une arme en état, et nous avions tant brûlé de poudre que quand on voulut charger les pierriers, à peine resta-t-il pour deux coups. Elle nous eût même été fort inutile. Sitôt que nous fûmes à portée, au lieu de daigner tirer sur nous, on nous cria d'amener, et nous fûmes abordés presque au même instant. Jusqu'alors, le patron, sans en faire semblant, m'observait avec quelque défiance, mais sitôt qu'il vit les corsaires dans notre bord, il cessa de faire attention à moi, et s'avança vers eux sans précaution. En ce moment, je me crus juge, exécuteur, pour venger mes compagnons d'esclavage, en purgeant le genre humain d'un traître et la mère d'un de ces monstres. Je courus à lui et lui criant « Je te l'ai promis, je te tiens parole !» D'un sabre dont je m'étais saisi, je lui fis voler la tête. À l'instant, voyant le chef des barbaresques venir impétueusement à moi, je l'attendis de pied ferme et lui présentant le sabre par la poignée. « Tiens, capitaine, lui dis-je en langue franque, je viens de faire justice, tu peux la faire à ton tour. » Il prit le sabre, il le leva sur ma tête, j'attendis le coup en silence. Il sourit, et me tendant la main, il défendit qu'on me mît au fer avec les autres. Mais il ne me parla point de l'expédition qu'il m'avait vu faire, ce qui me confirma qu'il en savait assez la raison. Cette distinction, au reste, ne dura que jusqu'au port d'Alger, et nous fûmes envoyés au bagne en débarquant, couplés comme des chiens de chasse. Jusqu'alors, attentif à tout ce que je voyais, je m'occupais peu de moi. Mais enfin la première agitation cessée me laissa réfléchir sur mon changement d'état, et le sentiment qui m'occupait encore dans toute sa force me fit dire en moi-même, avec une sorte de satisfaction. Que m'ôtera cet événement? Le pouvoir de faire une sottise. Je suis plus libre qu'auparavant. Émis l'esclave, reprenais-je, et dans quel sens? Qu'ai-je perdu de ma liberté primitive? Ne n'acquis-je pas esclave de la nécessité? Quel nouveau joug peuvent m'imposer les hommes? Le travail? Ne travaillais-je pas quand j'étais libre? La faim? Combien de fois je l'ai soufferte volontairement? La douleur? Toutes les forces humaines ne m'en donneront pas plus que ne m'en fit sentir un grain de sable. La contrainte? Sera-t-elle plus rude que celle de mes premiers fers? Et je n'en voulais pas sortir. Soumis par ma naissance aux passions humaines, que leur joug me soit imposé par un autre ou par moi, ne faut-il pas toujours le porter? Et qui sait de quelle part il me sera plus supportable? J'aurai du moins toute ma raison pour les modérer dans un autre. Combien de fois ne m'a-t-elle pas abandonné dans les miennes? Qui pourra me faire porter deux chaînes? N'en portais-je pas une auparavant? Il n'y a de servitude réelle que celle de la nature. Les hommes n'en sont que les instruments. Qu'un maître m'assomme ou qu'un rocher m'écrase, c'est le même événement à mes yeux. Et tout ce qui peut m'arriver de pis dans l'esclavage est de ne pas plus fléchir un tyran qu'un caillou. Enfin, si j'avais ma liberté, qu'en ferais-je? Dans l'état où je suis, que puis-je vouloir? Et pour ne pas tomber dans l'anéantissement, j'ai besoin d'être animé par la volonté d'un autre au défaut de la mienne. Je tirai de ces réflexions la conséquence que mon changement d'état était plus apparent que réel, que si la liberté consistait à faire ce qu'on veut, nul homme ne serait libre, que tous sont faibles, dépendant des choses, de la dure nécessité, que celui qui sait le mieux vouloir tout ce qu'elle ordonne est le plus libre, puisqu'il n'est jamais forcé de faire ce qu'il ne veut pas. Oui, mon père, je puis le dire. Le temps de ma servitude fut celui de mon règne, et jamais je n'eus tant d'autorité sur moi que quand je portais les fers des barbares. Soumis à leurs passions sans les partager, j'appris à mieux connaître les miennes. Leurs écarts furent pour moi des instructions plus vives que n'avaient été vos leçons, et je fis, sous ces rudes maîtres, un cours de philosophie encore plus utile que celui que j'avais fait près de vous. Je n'éprouvais pas pourtant dans leur servitude toutes les rigueurs que j'en attendais, J'essuyais de mauvais traitements, mais moins peut-être qu'ils n'en eussent essuyé parmi nous. Et je connus que ces noms de maures et de pirates portaient avec eux des préjugés dont je ne m'étais pas assez défendu. Ils ne sont pas pitoyables, mais ils sont justes. Et s'il faut n'attendre d'eux ni douceur ni clémence, on n'en doit craindre non plus ni caprice ni méchanceté. Ils veulent qu'on fasse ce qu'on peut faire, mais ils n'exigent rien de plus, et dans leur châtiment, ils ne punissent jamais l'impuissance, mais seulement la mauvaise volonté. Les nègres seraient trop heureux en Amérique si l'Européen les traitait avec la même équité, mais comme ils ne voient dans ces malheureux que des instruments de travail, sa conduite envers eux dépend uniquement de l'utilité qu'il en tire. Il mesure sa justice sur son profit. Je changeais plusieurs fois de patron. L'on appelait cela me vendre. Comme si jamais on pouvait vendre un homme. On vendait le travail de mes mains, mais ma volonté, mon entendement, mon être, tout ce par quoi j'étais moi, et non pas un autre, ne se vendait assurément pas. Et la preuve de cela est que la première fois que je voulus le contraire de ce que voulait mon prétendu maître, ce fut moi qui fus le vainqueur. Cet événement mérite d'être raconté. Je fus d'abord assez doucement traité. L'on comptait sur mon rachat, et je vécus plusieurs mois dans une inaction qui m'eût ennuyé, si je pouvais connaître l'ennui. Mais enfin, voyant que je n'intriguais point auprès des consuls européens et des moines, que personne ne parlait de ma rançon, et que je ne paraissais pas y songer moi-même, on voulut tirer parti de moi de quelque manière, et l'on me fit travailler. Ce changement ne me surprit ni ne me fâcha. Je craignais peu les travaux pénibles, mais j'en aimais mieux de plus amusants. Je trouvai le moyen d'entrer dans un atelier dont le maître ne tarda pas à comprendre que j'étais le sien dans son métier. Ce travail, devenant plus lucratif pour mon patron que celui qu'il me faisait faire, il m'établit pour son compte et s'en trouva bien. J'avais pu disperser presque tous mes anciens camarades du bagne. Ceux qui pouvaient être rachetés l'avaient été, ceux qui ne pouvaient l'être avaient eu le même sort que moi, mais tous n'y avaient pas trouvé le même adoucissement. Deux chevaliers de Malte, entre autres, avaient été délaissés. Leur famille était pauvre. La religion ne rachète point ses captifs, et les pères, ne pouvant racheter tout le monde, donnaient, ainsi que les consuls, une préférence fort naturelle et qui n'est pas inique, à ceux dont la reconnaissance leur pouvait être plus utile. Ces deux chevaliers, l'un jeune et l'autre vieux, étaient instruits et ne manquaient pas de mérite. Mais ce mérite était perdu dans leur situation présente. Ils savaient le génie, la tactique, le latin, les belles lettres. Ils avaient des talents pour briller, pour commander, qui n'étaient pas d'une grande ressource à des esclaves. Pour surcroît, ils portaient fort impatiemment leur fer, et la philosophie, dont ils se piquaient extrêmement, n'avait point appris à ces fiers gentilshommes à servir de bonne grâce des pieds plats et des bandits, car ils n'appelaient pas autrement leur maître. Je plaignais ces deux pauvres gens, ayant renoncé par leur noblesse à leur état d'homme. À Alger, ils n'étaient plus rien. Même ils étaient moins que rien, car parmi les corsaires, un corsaire ennemi, fait esclave, est fort au-dessous du néant. Je ne pus servir le vieux que de mes conseils, qui lui étaient superflus, car plus savant que moi, du moins de cette science qui s'étale, il savait à fond toute la morale, et ses préceptes lui étaient très familiers. Il n'y avait que la pratique qui lui manqua, et l'on ne saurait porter de plus mauvaise grâce le joug de la nécessité. Le jeune, encore plus impatient, mais ardent, actif, intrépide, se perdait en projets de révolte et de conspiration, impossible à exécuter, et qui, toujours découvert, ne faisait qu'aggraver sa misère. Je tentai de l'exciter à s'évertuer à mon exemple, et à tirer parti de ses bras pour rendre son état plus supportable. Mais il méprisa mes conseils et me dit fièrement qu'il savait mourir. « Monsieur, lui dis-je, il vaudrait encore mieux savoir vivre. » Je parvins pourtant à lui procurer quelque soulagement, qu'il reçut de bonne grâce et en âme noble et sensible, mais qui ne lui firent pas goûter mes vues. Il continua ses trames pour se procurer la liberté par un coup hardi. Mais son esprit remuant lassa la patience de son maître, qui était le mien. Cet homme se défie de lui et de moi. Nos liaisons lui avaient paru suspectes, et il crut que j'employais à l'aider dans ses manœuvres les entretiens par lesquels je tâchais de l'en détourner. Nous fûmes vendus à un entrepreneur d'ouvrages publics et condamnés à travailler sous les ordres d'un surveillant barbare, esclave comme nous, mais qui, pour se faire valoir à son maître, nous accablait de plus de travaux que la force humaine n'en pouvait porter. Les premiers jours ne furent pour moi que des jeux, comme on nous partageait également le travail, et que j'étais plus robuste et plus ingambe que tous mes camarades, j'avais fait ma tâche avant eux, après quoi j'aidais les plus faibles et les alliégeois d'une partie de la leur, et les allégeais d'une partie de la leur. Mais notre piqueur, ayant remarqué ma diligence et la supériorité de mes forces, m'empêcha de les employer pour d'autres en doublant ma tâche, et toujours augmentant par degrés, finit par me surcharger à tel point, et de travail et de coups, que, malgré ma vigueur, j'étais menacé de succomber bientôt sous le fait. Tous mes compagnons, tant forts que faibles, mal nourris et plus maltraités, dépérissaient sous l'excès de travail. Cet état devenant tout à fait insupportable, je résolus de m'en délivrer à tout risque. Mon jeune chevalier, à qui je communiquais ma résolution, la partagea vivement. Je le connaissais homme de courage, capable de constance, pourvu qu'il fît sous les yeux des hommes, et dès qu'il s'agissait d'actes brillants et de vertus héroïques, je me tenais sûr de lui. Mes ressources, néanmoins, étaient toutes en moi-même, et je n'avais besoin du concours de personne pour exécuter mon projet. Mais il était vrai qu'il pouvait avoir un effet beaucoup plus avantageux, exécuté de concert par mes compagnons de misère, et je résolus de le leur proposer conjointement avec le chevalier. J'eus peine à obtenir de lui que cette proposition se ferait simplement et sans intrigue préliminaire. Nous prîmes le temps du repas, où nous étions plus rassemblés et moins surveillés. Je m'adressai d'abord dans ma langue à une douzaine de compatriotes que j'avais là, ne voulant pas leur parler en langue franque, de peur d'être entendu des gens du pays. « Camarades, leur dis-je, écoutez-moi. Ce qui me reste de force ne peut suffire à 15 jours encore du travail dont on me surcharge, et je suis un des plus robustes de la troupe. Il faut qu'une situation si violente prenne une prompte fin, soit par un épuisement total, soit par une résolution qui le prévienne. Je choisis le dernier parti, et je suis déterminé à me refuser dès demain à tout travail, au péril de ma vie et de tous les traitements que doit m'attirer ce refus. Mon choix est une affaire de calcul. Si je reste comme je suis, il faut périr infailliblement en très peu de temps et sans aucune ressource. Je m'en ménage une par ce sacrifice de peu de jours. Le parti que je prends peut effrayer notre inspecteur et éclairer son maître sur son véritable intérêt. Si cela n'arrive pas, mon sort, quoique accéléré, ne saurait être empiré. Cette ressource serait tardive et nulle quand mon corps épuisé ne serait plus capable d'aucun travail. Alors, en me ménageant, il n'aurait rien à gagner. En m'achevant, il ne ferait qu'épargner ma nourriture. Il me convient donc de choisir le moment où ma perte en est encore une pour eux. Si quelqu'un d'entre vous trouve mes raisons bonnes et veut, à l'exemple de cet homme de courage, prendre le même parti que moi, notre nombre fera plus d'effet et rendra nos tyrans plus traitables, mais fussions-nous seuls, lui et moi, nous n'en sommes pas moins résolus à persister dans notre refus, et nous vous prenons tous à témoin de la façon dont il sera soutenu. » Ce discours simple et simplement prononcé fut écouté sans beaucoup d'émotion. 4 ou 5 de la troupe me dirent cependant de compter sur eux et qu'ils feraient comme moi. Les autres ne dirent mot, et tout resta calme. Le chevalier, mécontent de cette tranquillité, parla aux siens dans sa langue avec plus de véhémence. Leur nombre était grand. Il leur lit à haute voix des descriptions animées de l'état où nous étions réduits et de la cruauté de nos bourreaux. Il excita leur indignation par la peinture de notre avilissement et leur ardeur par l'espoir de la vengeance. Enfin, il enflamma tellement leur courage par l'admiration de la force d'âme qui sait braver les tourments et qui triomphe de la puissance même, qu'ils l'interrompirent par des cris et tous jurèrent de nous imiter et d'être inébranlables jusqu'à la mort. Le lendemain, sur notre refus de travailler, nous fûmes, comme nous nous y étions attendus, très maltraités les uns et les autres, inutilement toutefois quant à nous deux et à mes trois ou quatre compagnons de la veille, à qui nos bourreaux n'arrachèrent pas même un seul cri. Mais l'œuvre du chevalier ne tint pas si bien. La constance de ses bouillants compatriotes fut épuisée en quelques minutes, et bientôt, à coups de nerf de bœuf, on les ramena tous au travail, doux comme des agneaux. Outré de cette lâcheté, le chevalier, tandis qu'on le tourmentait lui-même, les chargeait de reproches et d'injures qu'il n'écoutait pas. Je tâchais de l'apaiser sur une désertion que j'avais prévue et que je lui avais prédite. Je savais que les effets de l'éloquence sont vifs, mais momentanés. Les hommes qui se laissent si facilement émouvoir se calment avec la même facilité. Un raisonnement froid et fort ne fait point d'effervescence, mais quand il prend, il pénètre, et l'effet qu'il produit ne s'efface plus. La faiblesse de ces pauvres gens en produisit un autre auquel je ne m'étais pas attendu et que j'attribue à une rivalité nationale plus qu'à l'exemple de notre fermeté. Ceux de mes compatriotes qui ne m'avaient point imité, les voyant revenir au travail, les huèrent, le quittèrent à leur tour, et comme pour insulter à leur couardise, vinrent se ranger autour de moi. Cet exemple en entraîna d'autres, et bientôt la révolte devint si générale que le maître, attiré par le bruit et les cris, vint lui-même pour y mettre ordre. Vous comprenez ce que notre inspecteur put lui dire pour s'excuser et pour l'irriter contre nous. Il ne manqua pas de me désigner comme l'auteur de l'émeute, comme un chef de mutin qui cherchait à se faire craindre par le trouble qu'il voulait exciter. Le maître me regarda et me dit « C'est donc toi qui débauches mes esclaves ? Tu viens d'entendre l'accusation. Si tu as quelque chose à répondre, parle. » Je fus frappé de cette modération dans le premier emportement d'un homme âpre au gain, menacé de sa ruine. Dans un moment où tout maître européen, touché jusqu'au vif par son intérêt, eut commencé sans vouloir m'entendre par me condamner à 1000 tourments. « Patron, lui dis-je en langue franque, tu ne peux nous haïr, tu ne nous connais pas même, nous ne te haïssons pas non plus, tu n'es pas l'auteur de nos maux, tu les ignores. Nous savons porter le joug de la nécessité qui nous a soumis à toi. Nous ne refusons point d'employer nos forces pour ton service, puisque le sort nous y condamne, mais en les excédant, ton esclave nous les ôte et va te ruiner par notre perte. Crois-moi, transporte à un homme plus sage l'autorité dont il abuse à ton préjudice. Mieux distribué, ton ouvrage ne se fera pas moins, et tu conserveras des esclaves laborieux dont tu tireras avec le temps un profit beaucoup plus grand que celui qu'il te veut procurer en nous accablant. Nos plaintes sont justes, nos demandes sont modérées. Si tu ne les écoutes pas, notre parti est pris. Ton homme vient d'en faire l'épreuve, tu peux la faire à ton tour. Je me tus. Le piqueur voulut répliquer. Le patron lui imposa silence. Il parcourut des yeux mes camarades, dont le teint hâve et la maigreur attestaient la vérité de mes plaintes, mais dont la contenance au surplus n'annonçait point du tout des gens intimidés. Ensuite, m'ayant considéré de rechef, « Tu parais, dit-il, un homme sensé, je veux savoir ce qui en est. Tu tenses la conduite de cet esclave, voyons la tienne à sa place. Je te la donne et le mets à la tienne. » Aussitôt il ordonna qu'on m'ôtât mes fers et qu'on les mît à notre chef. Cela fut fait à l'instant. Je n'ai pas besoin de vous dire comment je me conduisis dans ce nouveau poste, et ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Mon aventure fit du bruit, le soin qu'il prit de la répandre fit nouvelle dans Alger. Le dé même entendit parler de moi et voulut me voir. Mon patron m'ayant conduit à lui, et voyant que je lui plaisais, lui fit présent de ma personne. Voilà votre Émile, esclave du dé d'Alger. Les règles sur lesquelles j'avais à me conduire dans ce nouveau poste découlaient de principes qui ne m'étaient pas inconnus. Nous les avions discutés durant mes voyages, et leur application, bien qu'imparfaite et très en petit, dans le cas où je me trouvais, était sûre et infaillible dans ses effets. Je ne vous entretiendrai pas de ces menus détails, ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre vous et moi. Mes succès m'attirèrent la considération de mon patron. Assem Ouglou était parvenu à la suprême puissance par la route la plus honorable qui puisse y conduire, car de simple matelot, passant par tous les grades de la marine et de la milice, il s'était successivement élevé aux premières places de l'État, et après la mort de son prédécesseur, il fut élu pour lui succéder par les suffrages unanimes des Turcs et des Maures, des gens de guerre et des gens de loi. Il y avait 12 ans qu'il remplissait avec honneur ce poste difficile, ayant à gouverner un peuple indocile et barbare, une soldatesque inquiète et mutine, avide de désordre et de troubles, qui, ne sachant ce qu'elle désirait elle-même, ne voulait que remuer et se souciait peu que les choses allassent mieux pourvu qu'elles allassent autrement. On ne pouvait pas se plaindre de son admiration, quoiqu'elle ne répondît pas à l'espérance qu'on en avait conçue. Il avait maintenu sa régence assez tranquille. Tout était en meilleur état qu'auparavant, le commerce et l'agriculture allaient bien. La marine était en vigueur, le peuple avait du pain. Mais on n'avait point de ces opérations éclatantes. Thank you.